Accent d'Europe, Catherine Roland.
Portrait.
Et nous partons d'abord dans l'est de l'Ukraine où les combats continuent entre les troupes ukrainiennes et les rebelles pro-russes. Certes, depuis le cessez-le-feu de septembre, les affrontements sont moins intenses, mais l'ONU avance tout de même un bilan de 3700 morts. Des chiffres qui ne découragent pas un certain nombre de séparatistes venus de tous les horizons dans le Donbass. On y trouve des habitants de la région, des mercenaires, des aventuriers, des Russes volontaires, des membres de l'armée régulière russe ou encore des Ukrainiens russophones venus d'autres régions du pays pour combattre contre Kiev pour la nouvelle Russie. À Lugansk, Sébastien Gobert a rencontré l'un d'entre eux, Oleg, lui vient de Crimée.
C'est avec un air franc et jovial que l'homme se met à parler dans un très bon anglais. Dans le palais de la très russophile République populaire autoproclamée de Lugansk, cela surprend. Oleg, 42 ans, est volontaire séparatiste dans l'est de l'Ukraine depuis juin dernier. Originaire de la péninsule de Crimée, jusqu'à il y a peu région de l'Ukraine, il a passé de nombreuses années à vivre de petits boulots à l'étranger avant de rentrer au pays et d'y travailler comme marin et plongeur. Il a même habité à Kiev quelques années, mais l'Ukraine, il n'en garde qu'un souvenir lointain et amer.
J'avais une attitude très amicale envers les Ukrainiens. Je ne me suis jamais senti ukrainien, mais je n'ai jamais rien eu contre eux. Puis est venu 2004 et la révolution orange. Petit à petit, ils ont réduit à néant tous mes sentiments positifs. Ils m'ont fait comprendre que j'étais un ennemi.
Il se met alors, petit à petit, à rêver d'un retour de la Crimée à la Russie. Quand le moment arrive, en février, il rejoint les petits hommes verts, les soldats russes déployés sur la péninsule, par l'intermédiaire d'amis. Une fois la Crimée annexée par la Russie, il vivote dans sa ville natale. Et en juin, il prend la route de l'est de l'Ukraine pour y construire la Novorossiya, la nouvelle Russie. Il y est actif depuis, même s'il explique ne pas être un combattant endurci. En tout cas, il partage les succès et les défaites de ses compagnons et leurs frustrations.
Je voulais vraiment que la Russie fasse plus, mais je ne pense pas qu'elle puisse se le permettre. En juillet et août, j'étais furieux de cette absence de soutien. Et maintenant, je ne comprends pas la raison de ce cessez-le-feu. Si Poutine ne nous avait pas stoppés, nous serions à Kharkiv aujourd'hui.
Pour Oleg, la reprise de combat à grande échelle n'est qu'une question de temps. Il se dit entièrement dédié à la cause de manière bénévole, mais cependant il indique qu'il quittera la région avant l'hiver car il ne supporte pas le froid. Comme des dizaines d'autres, Oleg est un patriote aventurier, un de ceux qui veulent construire la nouvelle Russie, mais pas y rester.
L'écologie a toujours été l'une des préoccupations majeures des Berlinois. Alors qu'y a-t-il de plus bio que de produire salade, légumes verts et tomates en plein cœur de la capitale allemande sans pesticides? C'est le pari de l'entreprise ECF qui élabore une ferme de 1800 m² au sud du quartier de Tempelhof entre un Ikea et une voie rapide. Dans cet imposant complexe de briques rouges, la Malzfabrik, sont installées start-up, entreprises de design, et donc désormais des containers agricoles avec de nouvelles techniques de culture. C'est le reportage de Déborah Berlioz.
Ce soir, le toit de la Malzfabrik est bien animé. Une petite centaine de personnes sont réunies pour un barbecue. Les poissons qui cuisent sur le grill ont été élevés dans un container installé sur cet ancien site industriel par l'entreprise ECF. Quant aux légumes et salades, ils poussent dans une serre sur ce même conteneur. Et visiblement, les invités se régalent.
Le poisson était très bon. J'ai découvert ce projet pendant la fête d'été de la Malzfabrik. J'ai vu comment les poissons sont élevés et comment l'eau dans laquelle ils vivent est recyclée et utilisée pour faire pousser les légumes. Ça m'a vraiment convaincu.
Le conteneur de l'ECF utilise en effet la technique de l'aquaponie. Il s'agit d'une culture de végétaux en symbiose avec l'élevage de poissons. Les plantes poussent sans terre, directement dans l'eau. Christian Echtenhardt et les cofondateurs de l'ECF ont découvert cette technique en 2012 et ont décidé de monter une entreprise pour la développer. Le conteneur de la Malzfabrik leur sert un peu de laboratoire de test. Et selon Christian, l'aquaponie a des avantages indéniables.
Une fois que l'eau a été utilisée pour les poissons, elle est réutilisée pour les plantes. Ce système fermé permet d'économiser jusqu'à 95% d'eau par rapport à une culture traditionnelle dans un champ. De plus, les déjections des poissons qui sont dans l'eau fournissent des nutriments pour les plantes. Cela représente la moitié des engrais nécessaires.
Cependant, cette technique ne peut être rentable économiquement que sur un grand espace. L'entreprise ECF est donc en train de construire une ferme aquaponique de 1800 mètres carrés sur le site de la Malzfabrik. Alors certes, une ferme en pleine ville, cela peut paraître incongru, mais pour Christian, l'agriculture urbaine est une nécessité. En effet, en 2050, 70% de la population terrestre habitera en ville. Et cultiver au plus près des consommateurs est plus écologique.
Déjà, la chaîne du froid et de transport disparaît, de telle façon que les légumes arrivent aux consommateurs plus frais et avec une empreinte carbone plus petite.
Christian en est persuadé, les denrées de sa ferme s'écouleront facilement. Il faut dire que les Allemands cherchent de plus en plus à acheter des produits locaux. Certains Berlinois se sont même déjà mis à l'agriculture urbaine et les jardins communautaires sont toujours plus nombreux dans la capitale. Selon Suzanne Thomayer, chercheuse à l'Université technique de Berlin, cette tendance s'explique très simplement.
De manière générale, les consommateurs ont de plus en plus envie de savoir d'où vient leur nourriture. Ça vient notamment des différents scandales alimentaires et aussi du fait que le marché est devenu très complexe à cause de la mondialisation.
La ferme de CF sera toutefois la première à faire de l'agriculture urbaine à échelle commerciale dans Berlin. Elle devrait entrer en service l'année prochaine et elle produira 25 tonnes de poissons et 35 tonnes de légumes par an. Toutefois, ces légumes n'auront pas le label biologique, car ces sigles ne sont accordés qu'à des cultures en terre. Mais selon Christian, sa ferme n'en a pas besoin.
Nous avons fait des recherches et constaté qu'un label bio sert surtout à donner confiance aux consommateurs, car il n'est pas là quand les légumes sont produits. Mais nous sommes en plein centre-ville. Les gens peuvent nous rendre visite et observer nos méthodes de culture.
Thomas, qui attend encore son poisson passé au barbecue, est déjà convaincu. Il compte bien acheter des produits à la future ferme.
Ils seront bien plus frais ici que dans un magasin de légumes et bien plus encore qu'en supermarché.
Toutefois, l'espace risque de manquer en ville pour développer une agriculture urbaine à grande échelle. Pour Suzanne Thomayer, la solution serait donc d'installer des serres sur le toit des supermarchés.
Ce serait logique car les supermarchés produisent beaucoup de chaleur à cause de leur système de réfrigération. On peut utiliser cette chaleur pour la serre et on aurait des produits sur le toit qu'on pourrait vendre directement en dessous. En plus, ces serres ont un effet isolant comme les toits végétaux.
Une chose est sûre, la ferme aquaponique intéresse des investisseurs. Plusieurs entrepreneurs ont déjà contacté l'entreprise ECF pour développer des fermes similaires ailleurs.
La chronique des jeunes européens.
Bonjour Eve Minot.
Bonjour Catherine.
Engagez-vous, rengagez-vous, qu'il disait. Une petite référence en fan d'Astérix légionnaire, n'est-ce pas Eve?
Oui.
Mais oui, plus que jamais l'Europe pousse ses jeunes à faire du volontariat, hein, non pas chez les légionnaires. Hein. Chantier, SVE, SVI, bénévolat, tout est bon hein, pour occuper à moindre frais la jeunesse. Le service volontaire européen d'ailleurs a intégré le programme Erasmus+, depuis le début de cette année. Mais la commission propose aussi régulièrement aux intéressés de participer ponctuellement à de grands événements en tant que volontaire.
Oui, et c'est le cas cette semaine, Catherine, puisque figurez-vous que le portail européen de la jeunesse fait la promotion d'une opportunité singulière, celle de participer en tant que volontaire, je vous rassure, aux prochains Jeux Olympiques. Ça sera en 2016 à Rio de Janeiro, au Brésil. Condition indispensable, avoir au moins 18 ans au moment des Jeux, avoir terminé le lycée et être dans la capacité de se libérer régulièrement pendant 2 ans. Et oui, Catherine, être volontaire d'un événement planétaire, apparemment, ça s'apprend. Date limite pour les inscriptions sur rio2016.com le 15 novembre prochain.
Voilà, alors quelques chanceux ont peut-être la chance donc d'aller à Rio, mais pour les autres, hein, il reste toujours le service volontaire européen.
Et cette fois-ci, c'est pour la bonne cause. Né en 1996, le service volontaire européen, qu'on appelle SVE, a aujourd'hui rejoint, vous l'avez dit, le programme Erasmus+, qui chapeaute toutes les activités destinées aux jeunes et soutenues financièrement par la Commission européenne. Le principe est toujours le même, partir à l'étranger entre 2 et 12 mois pour les jeunes à partir de 18 ans et jusqu'à 30, partir dans un un autre pays de l'Union européenne, mais aussi dans un pays partenaire, que cela soit un pays limitrophe de l'UE, à l'Est ou autour de la Méditerranée, voire plus loin, en Afrique et même en Amérique du Sud. L'Union européenne paye le voyage et fournit une petite enveloppe mensuelle jusqu'à 210 euros par mois.
Alors, pour être concret, pour nos auditeurs, peut-être quelques exemples de SVE.
Oui, alors je le rappelle, l'idée est de faire participer le volontaire à une activité dont l'objectif n'est pas commercial. Selon les destinations et les structures, on vous proposera de participer à des projets de lutte anti-pollution, par exemple de mise en place de services de proximité aux personnes âgées ou encore à de l'animation scolaire. On peut aussi vous proposer de rejoindre une équipe qui développe des actions pour la lutte contre le racisme. C'est au candidat de sélectionner son SVE en fonction de ses affinités et de ses souhaits, mais le candidat ne peut pas partir n'importe où. Il lui faut au préalable trouver une structure d'accueil.
Eh bien, c'est bien là que ça se complique, Eve.
Malheureusement, oui, la démarche exige un engagement assez important du jeune candidat, finalement, qui doit avoir recours à plusieurs organismes différents avant de voir la couleur d'un billet d'avion. Il faut s'y prendre très longtemps à l'avance. Pour vous donner une idée, les candidats au départ devront à présent patienter jusqu'en janvier 2016 avant de pouvoir partir, car les inscriptions pour l'année 2015 sont déjà closes pour la plupart depuis le début du mois. Donc, pour promouvoir son SVE, malgré tout, l'Europe en a fait un service civique reconnu qui peut remplacer le service civique national imposé dans certains pays. Résultat, les candidats nordiques contraints au service civique dans leur pays sont les seuls à vraiment s'y intéresser.
Ouais, alors, si on a bien compris, le programme a du mal à convaincre les autres Européens.
Il est en tout cas difficile de trouver des chiffres sur les candidats et le profil type du jeune volontaire reste le même que celui du jeune Erasmus, une jeune fille issue de milieux plutôt aisés, au bagage universitaire costaud. C'est d'ailleurs ce qui est reproché au programme Erasmus et donc au SVE de n'attirer que des enfants de cadres diplômés.
Merci Eve, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Donner son sang, vous le savez, c'est un geste citoyen qui est loué absolument partout. Sauf que tout le monde n'a pas le droit de le faire. En Europe, les gays, par exemple, sont exclus des dons de sang. Un Français a contesté cette décision devant la justice de son pays, qui elle-même s'est tournée vers la Cour européenne de justice. Pas encore de décision, mais il y a quelques mois, l'avocat général de la Cour a rendu ses conclusions et il donne raison aux plaignants français. La conclusion, en général, est suivie par la Cour. La procédure de sélection des donneurs dans plusieurs pays européens, dont la Belgique, devra sans doute être révisée. Reportage au centre de transfusion sanguine de la Croix-Rouge de l'hôpital Erasme à Bruxelles, Olivier Henrion.
Bonjour.
Bonjour.
Là, vous êtes en train de donner votre sang.
Mes plaquettes.
Et vous faites ça régulièrement ?
Ben, ça fait quelques mois que je fais ça, oui, effectivement. J'ai franchi le pas avec les plaquettes et quand je me rends compte que c'est très utile, beaucoup plus que le sang, parce que j'ai vu qu'on pouvait apparemment aider les gens qui avaient des chimios en cancer, des problèmes d'immunité. Voilà, je me dis que je suis en pleine santé et que ça peut être très utile.
Justement, avant de donner votre sang, vous devez remplir un questionnaire ?
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce qu'on vous demande ?
Ben écoutez, si au niveau sexuel, il n'y a pas eu des comportements à risque, si j'ai voyagé en dehors de la Belgique, si j'ai pris des antibiotiques, des anti-inflammatoires, voilà, si les comportements de ma vie de tous les jours n'ont pas été à risque au niveau de la contamination du sang.
En plus de ce questionnaire, à chaque don, les donneurs comme Isabelle rencontrent un médecin qui va évaluer leur état de santé et les éventuels comportements jugés trop risqués pour le don du sang. Une procédure qui permet de minimiser les risques de contamination à différents virus, comme ceux de l'hépatite ou le VIH, mais qui exclut les homosexuels.
Ce ne sont pas les homosexuels, hein. Donc le questionnaire est très clair chez nous. Ce ne sont pas les homosexuels qui sont exclus, c'est les personnes, c'est les hommes qui ont des relations avec d'autres hommes.
Olivier Bertrand, porte-parole du service du sang de la Croix-Rouge de Belgique.
Tout simplement parce que dans l'état actuel des données épidémiologiques connues en Belgique, on estime que le risque est élevé de prélever chez les hommes qui ont eu des relations sexuelles avec d'autres hommes, de contracter une maladie infectieuse pour le receveur.
Le don du sang est aujourd'hui très encadré en Europe. Il y a au moins 4 directives européennes qui balisent les pratiques de collecte du sang pour éviter les risques de contamination. Chaque poche de sang ou de plaquette est soigneusement étiquetée avant de suivre un traitement de dépistage de l'hépatite ou du sida.
Pour chaque donneur, une fois qu'il rentre dans le centre de transfusion, on ne sait pas encore s'il va pouvoir donner ou pas pouvoir donner, on lui attribue un code barre unique. Si, à un moment donné, on doit pouvoir retracer pour une raison ou une autre, ça peut être, par exemple, on se rend compte qu'il y a un kit qui est défaillant, hein, une poche de sang qui est défaillante, un lot. Ben, on doit pouvoir aller rechercher les poches dans les hôpitaux, on doit pouvoir savoir qui a donné dedans, etc., etc.
Mais malgré ces mesures de prévention, la Croix-Rouge n'envisage pas la levée de la mesure d'interdiction qui frappe les homosexuels.
C'est tout simplement parce que pour chaque virus, au moment où vous êtes contaminé, il faut un certain temps avant que le virus ou les anticorps que vous allez produire contre le virus soient détectables par des tests. Et donc c'est toute cette période qu'on appelle la période silencieuse qui justifie que malgré les tests, on doive quand même sélectionner les donneurs les moins à risque. Tout simplement.
Une réponse insatisfaisante pour la communauté homosexuelle.
Je t'en prie. C'est comme chez toi.
Merci.
Ex aequo est une association qui lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, mais aussi contre l'homophobie. Pour Michael François, son porte-parole, cette exclusion des gays de la liste des donneurs de sang est discriminante et stigmatisante.
On a pas mal de témoignages effectivement de personnes qui nous disent bah voilà, moi j'ai voulu donner mon sang parce que j'entends qu'il y a pénurie de sang à la Croix-Rouge et directement on me dit que c'est pas possible. Donc évidemment ils vivent ça comme une stigmatisation de plus. Alors aujourd'hui, il faut savoir que nous sommes dans un contexte de dépistage rapide où on peut avoir un résultat assez fiable quasiment immédiatement et en laboratoire, on est dans les tests de dernière génération, c'est-à-dire qu'on a une période fenêtre de 6 semaines. Donc on peut avoir effectivement la certitude qu'une plaquette de sang est saine ou pas après 6 semaines. Donc effectivement, on attend que le corps médical et la Croix-Rouge prennent ceci comme une opportunité pour éviter effectivement d'exclure sur base d'a priori.
Ce sont deux points de vue différents qui s'opposent et c'est finalement la justice européenne qui va trancher d'ici quelques semaines. Une décision difficile. D'ailleurs, de nombreux responsables politiques en Europe se sont déclarés contre cette mesure qui exclut une partie de la communauté homosexuelle du don de sang. Mais personne aujourd'hui n'a voulu prendre de décision pour revenir sur cette exclusion.
Et c'est Damien Vodenicharov, notre correspondant en Bulgarie, qui nous invite à une exposition pas comme les autres. À Sofia, un groupe d'artistes a eu l'idée de faire une bande-son de la capitale bulgare avec des enregistrements, des lieux de rencontre, des parcs, tout simplement du vacarme de la ville. Écoutez.
L'exposition qu'on écoute, une première en Bulgarie, de rangées d'écouteurs placées de part et d'autre d'une grande salle, passe les sons de Sofia en continu. Tout a été enregistré par 4 artistes bien connus sur la scène bulgare, la chanteuse de soul et R&B Ruth Koleva, le rappeur et producteur de hip-hop Venti et les DJ Martin et Sava ont erré dans la ville pour la raconter en son. Le vacarme de la rue marchande Vitocha, par exemple, converti en zone piétonne depuis quelques années. Les boutiques y côtoient des bars et des restaurants pleins à craquer lorsqu'il fait beau. Les parcs et les jardins grouillent de jeunes qui s'entraînent au skate. Des dalles et des morceaux de bois sont entassés ici et là en obstacles improvisés. Ou encore le métro de Sofia qui n'existe que depuis 1998. Avec son élargissement en 2009, le transport en commun de la capitale a radicalement changé. Pour des milliers de Sofiotes, il est maintenant plus facile de se déplacer sur rail qu'en voiture. Ces endroits sont emblématiques de Sofia, explique l'organisateur de l'exposition, Vladimir Stefanov.
Les artistes ont capturé les sons les plus intéressants de la capitale. On peut entendre différents quartiers. Certains d'entre eux n'attirent pas tellement l'attention, comme par exemple ce fond sonore qu'on entend. Les travaux publics ou alors la bousculade dans les tramways font aussi partie des sons de la ville.
Les enregistrements ne sont que la première étape dans la composition de la bande son de Sofia. Après l'exposition, les 4 artistes écriront des morceaux qui seront alors mis à disposition des Sofiotes. Vladimir Stefanov.
Ces vrais sons de la ville seront mixés avec leur musique pour créer 8 morceaux en tout. Cette bande-son sera alors éparpillée à travers Sofia. Il y aura des codes QR, ces nouveaux codes barres qui permettent de télécharger facilement sur mobile aux différents lieux d'enregistrement. Les morceaux seront gratuits.
Loin des clichés, capter la ville en son, c'est aussi rappeler ce qu'on oublie souvent en passant avec un casque aux oreilles.
Accent d'Europe, c'est déjà fini à la réalisation Ludivine Amado. Restez à l'écoute sur RFI dans un instant, les infos.